I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
J'ai jamais vu sans barbe.
Tu m'as jamais vu sans barbe ?
Ouais, je suis amoureux.
Tu es amoureux, c'est ça ? Tu me regardes avec les yeux de l'amour.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qu'un certain nombre de noms suffit à faire frétiller sur ses petites pattes au hasard, celui de Steven Spielberg, petit jeune débutant du cinéma populaire qui, oh la bonne idée, nous revient en ce mois de janvier avec Pentagon Papers. C'est au deuxième bonne idée, il y retrouve son ami, son camarade, son best buddy Tom Hanks, qui avec Meryl Streep forme le duo star de cette plongée dans un chapitre douloureux de l'histoire américaine, le Vietnam vu côté liberté de la presse. C'est bon, on est chaud, et aussi le sont mes deux camarades qui m'accompagnent ici en public à la recyclerie pour parler de ce film, Julien Dupuis. Salut Julien.
Bonjour. Thomas.
Non, t'as pas entendu, vas-y,
tu peux redire. Voilà. Bonjour Thomas.
Bonjour Julien, voilà, et Stéphane bon. Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 118, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir.
Pentagon Papers, The Post en VO, The Post pour le Washington Post qui est au cœur de ce nouveau Spielberg, puisqu'on nous y raconte le processus tortueux et douloureux qui a conduit à la publication en 71 par le journal des Pentagon Papers, donc dossier à charge qui prouvait que l'administration américaine savait depuis des années que la guerre du Vietnam était un bourbier sans nom, qu'une victoire était hautement improbable et donc qu'ils avaient menti au public. Une publication orchestrée par Catherine Graham, alias Meryl Streep, donc héritière et patronne du Post, une femme dans un monde d'hommes où elle compte tout de même quelques alliés, dont Ben Bradley, rédacteur en chef du journal, incarné, vous m'avez vu venir, par Tom Hanks.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh dear, I don't like hypothetical questions.
Well, I don't think you're gonna like the real one either.
Do you have the papers?
Not yet.
Et au générique, on trouve également une tripotée de visages connus, Bob Odenkirk, Sarah Paulson ou encore Bradley Whitford. C'est Pentagon Papers, qu'en avez-vous pensé, messieurs? Julien.
C'est moi qui commence.
Ouais,
alors.
C'est toi qui commence à la demande express de Stéphane Moïsakis.
Donc si je me plante, vous serez, voilà, vous serez miséricordieux.
C'est ça. Voilà.
Justement, ça tombe bien parce que moi j'ai commencé par une grosse banalité. Je pense que la chose qui fait plaisir, c'est de voir un film réalisé par des cadors. C'est le premier truc. Il y a un plaisir de cinéma immense à voir un film comme ça où toutes les parties, tous les chefs de poste sont excellent. Que ce soit du côté des comédiens, parce qu'ils sont vraiment parfaits tous, y compris les plus petits rôles, comme tous les chefs de poste. Encore une fois, la reconstitution historique, par exemple, est hallucinante. Avec Munich, c'est peut-être d'ailleurs la plus belle reconstitution historique qu'on ait vue chez un Spielberg. Tout est parfait, on y croit absolument. Et pour aller un peu au-delà, moi, ce qui m'a particulièrement touché, je pense que c'est là que fonctionne vraiment bien le film, c'est sur le côté humaniste, en fait, de Pentagon Papers. Alors, c'est une la palissade, hein, de dire que les films, oui, de Spielberg sont humanistes.
Et là, c'est généralement,
qu'est-ce que
cas.
Ça veut dire ? Oui, c'est vrai, mais d'un point de vue narratif, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il ramène des problématiques sociétales à l'humain, en fait, et au défi que doit affronter chaque personnage, qui deviennent du coup presque, j'allais dire des archétypes, mais pas dans le sens où ils sont très clichés, etc. Dans le sens où je pense qu'on peut se projeter très facilement dans chaque personnage. Et ce qui me plaît énormément, moi, dans le film, c'est que la solution à toutes ces problématiques-là réside donc en chacun d'eux. C'est-à-dire que j'ai entendu dire, enfin, on parle beaucoup, en fait, du côté féministe du film, hein, qui est réel, mais il n'est pas brandi comme un étendard. Il est vécu intimement par un personnage. Et la problématique féministe vient autant du personnage lui-même que de son environnement. C'est-à-dire que le personnage va réussir à s'émanciper à partir du moment où elle-même va réussir à s'affranchir, en fait, de l'image et du cadre dans lequel la société le fixe. Et tout le filmage du film est résumé à ça. Alors, je vais faire un petit spoiler. Mais non, mais parce que c'est un exemple assez édifiant. Déjà, un exemple édifiant qui n'est pas un spoiler, c'est que l'ouverture du film, ce qui va l'élément déclencheur, est un récit extrêmement subjectif, une expérience très subjective sur la guerre du Vietnam, présentée avec une concision et une efficacité absolument époustouflante. Mais où on comprend pourquoi, à l'origine, ce scandale a éclaté. Oui. Et en quoi on le doit à une personne finalement qui a redécouvert son âme au milieu d'un mode de fonctionnement justement déshumanisé dans lequel il était emprisonné. Et il y a donc un exemple que je trouve encore plus parlant, donc je vais rester assez vague pour pas trop spoiler non plus, mais il y a un moment où il y a un procès, il y a des personnages qui sortent d'un palais de justice, et c'est une scène
pas n'importe quel palais de justice.
Non, voilà, non, mais je veux pas
j'aime bien les trésors de délicatesse que tu emploies.
Je veux pas m'épancher dessus pour quand même réserver un peu la surprise, même si c'est
une histoire, ouais, donc, oui, l'histoire est connue.
On connaît un peu l'issue quand même du film, mais. Ce qui est intéressant dans cette scène et dans la façon dont elle est filmée, c'est qu'il y a d'un côté en fait tous les manifestants qui vont le peuple quoi, qui va commencer à râler contre le gouvernement, à se manifester, à signaler que là il y a un problème quoi dans la façon dont le gouvernement les gère finalement et bafoue le second amendement et les personnages les personnages vont sortir sur le côté et la caméra va petit à petit quitter en fait la masse des gens pour se focaliser sur ces personnages là et des exemples comme ça il y en a pléthore en fait dans le film et voilà, très beau film, magnifique, réjouissant.
Stéphane,
je pense que c'est
une fois que Julien a balisé le terrain, voilà, c'est bon, t'es
merci
prêt,
Julien,
de rien Stéphane,
rassuré.
Je pense que c'est important en fait de pointer du doigt que effectivement c'est un film extrêmement mise en scène en fait. Et je dis c'est important parce que ça pourrait être une de ces brouettes aux Oscars en fait, style Spotlight, où d'un seul coup, si justement tout était filmé.
Spotlight d'ailleurs qui parle du fils de Ben Bradley, le personnage central du film. C'est assez génial.
Mais le truc en fait, c'est que ça pourrait être un film comme ça, touche molle en fait en termes de mise en scène, ce qui fait que du coup tout l'aspect humaniste dont parle Julien en fait, ça devient un truc dégoulinant de bons sentiments et de bon sens moral.
Où les personnages existent finalement un peu moins dans Spotlight.
Et là en fait, ils existent clairement parce qu'ils existent par rapport à leur positionnement vis-à-vis du spectateur en fait, c'est-à-dire que il y a la logique morale dont parlait Julien tout à l'heure, mais il y a aussi le positionnement dans le champ en fait, c'est-à-dire que moi il y a pas mal de scènes où tu te retrouves avec des espèces de joutes verbales, morales, politiques, où d'un seul coup en fait le positionnement des personnages dans le champ change du début jusqu'à la fin de la scène. C'est pas un spoiler de dire ça, mais pour prendre une scène similaire, on va dire, dans la carrière de Steven Spielberg, même si le sujet n'a rien à voir, moi ça m'a fait penser à cette scène dans la verrière dans Minority Report, où il va voir la vieille dame en fait qui nourrit ses plantes carnivores. Et il y avait un vrai jeu comme ça de positionnement dans l'espace et de la caméra et des acteurs dans le champ qui soulignait l'importance des enjeux. Et la façon dont ils se retournaient en fait, les joutes se mettaient en place. Pour moi, au cinéma, ces dernières années, je suis un petit peu large. Il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça. La dernière fois, on va sûrement me contredire, mais la dernière fois que j'ai vu des joutes verbales vraiment filmées, alors c'est pas la même type de mise en scène, mais vraiment filmées comme ça, c'était dans Basic de McTiernan, où il y avait vraiment en fait un positionnement et un enjeu et surtout des mouvements de caméra en fait qui signifiaient littéralement les dialogues en fait. Donc là, il y a un peu de ça en fait, et c'est ça qui est assez touchant parce que on pourrait très facilement encore une fois tomber dans le pathos moralisateur que j'ai pas envie de dire que Spielberg, c'est-à-dire il l'évite parce que justement il est en état de grâce. Dans le film, par exemple, ces manifestants dont parle. Comment dire, Julien.
C'est Julien Dupuis.
Ces manifestants dont il parle, en fait, les gens qui sont à la, comment dire, aussi, enfin, les gens de la rue, en fait, qui sont à l'aune de la situation de crise, en fait, que le gouvernement est en train de comment dire, enfin, de la révolte qui gronde, ils filent en fait des rôles à ces enfants. T'as la plus jeune fille, je crois, de Spielberg qui vient et qui est la personne qui pose le paquet en fait sur le comment dire dans le journal et qui le file, je crois que c'est Bob Odenkirk, je sais plus lequel. Pareil, non, un autre personnage, mais enfin bref, peu importe,
un anodin, mais enfin un personnage secondaire dont on entendra plus
même
parler.
Pas secondaire, c'est vraiment
mais qui existe, enfin
c'est une fonction qui est, voilà, qui est, cette logique de dire la révolte vient de la jeunesse, en fait. Oui. C'est ça, la révolte contre le gouvernement, le questionnement, tout ça, ça vient de la jeunesse. Il y a son fils aussi qui joue dans un des manifestants. Et ça, c'est un truc où tu te dis, bon, ok, c'est papa Spielberg qui donne le leg, en fait, à voilà. Et c'est le sujet du film. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film qui est aussi extrêmement immédiat. C'est-à-dire, c'est un film qui parle d'aujourd'hui. C'est vraiment de l'Amérique actuelle. Alors, bon, nous, en tant qu'Européens, on est, je pense, un peu largués par la Constitution américaine. Il faut vraiment se renseigner, savoir quels sont les droits exacts, voir comment ça fonctionne. Parce que c'est très, très...
confondu les deux, nos amendements.
Mais le truc, c'est que, je pense, pour les Américains, c'est très, très frappant, c'est très parlant. Oui. Et c'est un film qui les concerne beaucoup plus que nous, par exemple, même si nous, ça nous concerne par Ricochet.
Surtout l'époque qui traverse.
Exactement. Et c'est un film qui a été fait pour ces raisons-là. Il faut savoir que c'est un film qui a été fait très très vite, ce qu'il a en main depuis un moment, hein. Déjà ça fait 2-3 ans qu'il était autour du film, mais il est parti faire Ready Player One, là il était en post-prod, il a vu le président qui est passé, il a vu comment ça se passe et il s'est dit bon maintenant il faut le faire, si je le fais pas maintenant en fait ça sera trop tard. Il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans aussi parce qu'il y a cette logique qui est, je pense, en fait dans la croyance de Spielberg dans le cinéma, de dire le cinéma, et je pense que pour lui c'est une vérité, peut influer sur la société. Et lui, je pense qu'il a vraiment toujours fait ses films sous cet angle-là, et surtout ses films historiques, que ce soit Munich, qui c'est pas un film anodin dans l'Amérique post 11 septembre, que ce soit Le Pont des Espions récemment. Moi je trouve que j'ai beaucoup plus de plaisir au Pont des Espions, par contre, en termes d'écriture. Vraiment, et là je parle d'écriture, hein, pas vraiment de mise en scène. Je trouve que c'est un film qui est plus ludique.
C'est peut-être l'apport des Cohen aussi, qui avait travaillé sur le script.
C'est un peu moins un film synthèse aussi, peut-être, que celui-là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un film, ce que j'entends encore une fois quand je le compare à Spoiled Life, c'est pas du tout en termes de qualité, hein, c'est vraiment en termes de façon d'aborder éventuellement un sujet, en partant du principe le cinéma sert à ça. Ça pourrait être un film qui passerait dans les dossiers de l'écran il y a 20 ans ou 25 ans quand on était jeune et que ça passait en France, quoi. Ça pourrait typiquement être un film comme ça quand j'étais jeune, pardon. mais j'en ai découvert des films comme ça, Les Hommes du Président, ce genre de choses. Et pour prendre un sujet similaire,
personnages,
exactement. Et donc le fait que le film se termine sur cette image qu'on ne spoilera pas forcément, même si encore une fois c'est un peu la logique
que le Washington Post a révélé
je pense que c'est clairement un signal en fait pour les générations actuelles, les amener à réfléchir sur la situation actuelle aux États-Unis,
sur l'importance des médias, ce qui est primordial aujourd'hui.
C'est ça.
Je veux rebondir parce que Steph parlait en fait de la façon dont les scènes de dialogue sont filmées. La comparaison avec Basic est très intéressante, c'est-à-dire que il filme ça en fait comme si c'était des scènes d'action en fait, dans le sens le plus noble du terme. Hein. Et il y a une séquence de dialogue au téléphone entre plusieurs personnages, par exemple, qui est d'un dynamisme hallucinant, alors qu'il n'y a rien de plus statique qu'une conversation téléphonique, hein, à la base, mais qui bouge tout le temps et avec des changements d'axe, et ça c'est vrai que c'est épatant. Et ton exemple en fait sur le dossier qui arrive à la rédaction m'a fait aussi penser à un autre truc où je reviens en fait, qui me permet d'étayer un petit peu mon idée sur le tout ramener en fait à l'humain. Je parle pas simplement des personnages principaux, parce que c'est vrai que j'ai parlé par exemple du personnage de Meryl Streep, mais même les personnages secondaires en fait ils débordent dans leur expérience personnelle. Par exemple, il y a une scène où il y a Tom Hanks qui va donner une mission à un stagiaire, qui est un personnage totalement secondaire qui ne fait que passer, et au lieu de rester sur Tom Hanks, qui aurait été logique, enfin n'importe quel serait resté à ce moment-là sur Tom Hanks et puis aurait continué comme ça, etc., la caméra le suit un petit peu et on sent au mixage son que le mec il est noyé, qu'il est en action, il est dans le mouvement, il est impliqué, et tout à coup le gars se rend compte en fait des enjeux de ce qui est en train de se dérouler. Je pense que c'est ça aussi qui permet au film d'échapper au film à thèse, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le discours, on est dans le ressenti émotionnel en fait, tout le temps dans le film, ce qui est pour moi un tour de force en fait quand tu abordes un sujet pareil aussi lourd, quoi. Et aussi une façon, je pense qu'il réussit aussi ça parce que tout ce qui est un peu plus lourd ou pesant, il a une façon très intelligente en fait, non pas de l'évacuer mais de le mettre en second plan. Par exemple, il y a Nixon en fait dans le film, mais qui est filmé d'une façon très spécifique. On reste à l'extérieur de la Maison Blanche, on n'est pas avec le président. Il a utilisé d'ailleurs des vrais enregistrements de Nixon pour jouer Nixon en fait, enfin en tout cas pour le replacer dans le contexte. Et c'est très intéressant parce que ça reste des scènes qui font passer l'information sans dévier les priorités du film. Voilà.
Stéphane.
Il y a aussi un autre truc en termes de mise en scène, parce qu'on sait que Spielberg est bon, on sait que Spielberg est un génie, on sait que Spielberg non mais c'était bon de le rappeler on de temps pas, en temps hein. Voilà. Et on sait que en gros on a quand même très peu de chance en fait de voir un mauvais film avec Spielberg. Ça arrive, et ça arrive en général sur ce genre de sujet en fait. Donc on aurait pu avoir le syndrome Amistad ou ce genre de choses en fait. Non, là le truc c'est que Spielberg fait du Spielberg. Spielberg fait du symbolisme en fait tel qu'il sait si bien l'utiliser. L'exemple de la scène d'ouverture, qui est, je crois d'ailleurs, tu me corrigeras peut-être, je crois que c'est la seule scène de Vietnam qu'il ait fait de sa vie en fait. C'est intéressant qu'il s'y attache.
C'est marrant, hein.
Voilà,
aujourd'hui quoi.
Voilà. Et c'est une scène qui se passe au Vietnam
aussi longtemps.
Voilà, et qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les scènes de guerre du soldat Ryan ou ce genre de choses. Ça n'est pas du tout l'enjeu. Hein. C'est voilà. Justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, cette scène se termine sur l'arme du personnage principal. C'est ça, il est là le symbolisme. Et l'arme du personnage principal, ce n'est pas une arme à proprement parler. C'est pas un flingue, c'est pas un fusil, c'est sa machine à écrire. Mmh. Et du coup, voilà, en fait, tout l'enjeu est résumé dans cette scène en fait au tout début, qui propulse en fait la thématique, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'on se dit. Donc voilà, pour Spielberg, dans ce film, l'idée c'est on peut changer le monde effectivement à travers les médias et à travers la façon dont chacun doit avoir un questionnement moral à avoir sur est-ce qu'il est bon de lancer ce genre de truc, quoi. Et mine de rien, c'est quand même intéressant de voir ça, même si encore une fois c'est un film historique, c'est quand même intéressant de voir ça à une époque où on fustige pas mal les lanceurs d'alerte par le gouvernement, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de voir
et aussi où les médias ont muté.
Oui.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que comme dans Spotlight, hein, là, pour le coup, mais qui était traité, je trouve, de façon un peu plus balourde, un peu plus frontale, on est aussi dans une époque où le papier a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Bon, Spotlight, évidemment, était beaucoup plus récent, quoi, mais on était encore... Internet n'avait pas encore ce pouvoir-là, l'information ne circulait pas de la même façon et tout. Je pense aussi qu'il y a une... C'est peut-être d'ailleurs le seul petit côté passiste, mais j'ai même pas envie de le dire, en fait, parce que c'est très léger. C'est surtout une façon de... Parce que c'est pas un film... contre, en fait, c'est vraiment un film pour. Et c'est une façon de dire voilà, le journalisme d'investigation, voilà ce que ça représente, voilà son importance, et voilà pourquoi c'est important aussi de le préserver aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément évident.
Et voilà, c'est tout ce qui a changé par le passé, c'est un peu ce que veut nous montrer Spielberg. Avant de se quitter, messieurs, à moins que vous ayez encore, j'imagine, plein de choses à dire, mais sur Spielberg, une fois que vous êtes lancé, je sais comment vous êtes. Avant de se quitter, donc on fait comme d'habitude une petite fournée de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester dans l'univers de Spielberg. Mais on l'a déjà fait, donc vous êtes toujours libre de vos choix, Stéphane.
On peut partir complètement à l'opposé.
Tu peux partir complètement à l'opposé. Si
bon, écoute, pour rester dans l'univers, mais bon, ça, c'est une recommandation complètement futile parce que je pense que
la liste de Schindler.
Non,
très bien.
Non, mais pour rester dans l'univers, moi, et puis la musique de John Williams,
oui,
m'a fait penser aussi.
C'est John Williams qui fait la
voilà,
musique.
Voilà, c'est le JFK d'Oliver Stone. Mais bon, ça, encore une fois, je pense que je.
Oui.
C'est un film assez connu,
ce
donc
qu'on appelle
j'ai
un
pas besoin. Voilà, exactement. Ah, mais attends, c'est un film qui a été vachement décrié quand c'est sorti à cette époque. Je sais que t'étais encore en train de regarder Transformers à la télé, mais voilà,
certainement. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un film qui a fait un peu pas scandale, mais qui a fait un débat sur sa vérité historique notamment. Mais alors pour partir, mais complètement à l'opposé.
Vas-y.
Juste parce que je suis en train de regarder ça en ce moment et que j'aime bien et que j'ai envie de pointer ça du doigt. C'est une série télé FX parce qu'il parle. Le truc c'est qu'on n'a plus le droit de parler de Louis C.K. maintenant. Il paraît qu'il est personnage dans le grattage. J'ai plus le droit.
C'est terminé.
Bon, alors j'ai parlé de Pamela Adlon, sa comparse en fait, qui fait une série produite par Louis C.K. Désolé, qui s'appelle Better Things et qui est un peu ma découverte du moment. C'est Louis version féminine si on résume, hein, sauf que ça se passe à Los Angeles, ça se passe à New York et c'est super attachant en fait. C'est pareil avec une écriture assez maîtrisée. Bon, c'est filmé comme une série télé, malheureusement, hein, c'est pas du Spielberg, voilà, mais
du Lubitsch,
ouais, pour dire si tu veux, mais voilà, c'est vraiment une série attachante, courte, hyper concise, vraiment fun, parce que c'est une personnalité à découvrir. Pamela Adlon, on l'a vu dans on l'a vu dans Louis, elle a un second rôle. Elle avait fait aussi l'autre série avec Louis C.K. Elle jouait la femme de Louis C.K.
Lucky Louis,
merci, voilà, que j'ai découvert aussi récemment en même temps, voilà.
Excellent.
Mais je trouve quand même que Better Things c'est quand même mieux et bah voilà, je conseille ça. Ça se trouve sûrement sur l'internet Ouzbékistan ou je sais
certainement quoi, voilà. Sur des réseaux obscurs où la liberté de la presse n'existe pas forcément.
Ouais.
Julien.
Alors moi, comme je suis un bon élève, contrairement à Stéphane, je suis resté avec Spielberg.
Ah, parce que, merci voilà, Julien. Fait plaisir.
Il faut quand même être professionnel au bout d'un moment. Jusqu'au excusez-moi, monsieur Mosekis. je voudrais conseiller. En fait, il y a un truc qui se passe en ce moment, j'ai l'impression, c'est qu'il y a les archives personnelles de Spielberg qui commencent à s'ouvrir un peu. Alors je pense que ça vient, c'est à l'initiative de Spielberg. On a envoyé des petits extraits dans l'excellent documentaire de Jack Paltrow sur Brian De Palma, par exemple, où on le voyait au téléphone, dans sa voiture, etc.
Exact.
Et il y a une nouvelle édition en fait, de Rencontre du Troisième Type qui est sortie en octobre dernier. Avec le film en 4K, tout ça, bon, tout ça c'est très bien, mais il y a un bonus dedans justement sur le tournage, c'est trop court malheureusement, ça dure une quinzaine de minutes, et ce sont les films que Spielberg tournait lui-même à l'époque sur le tournage, un tournage long cours, très compliqué, très dispendieux, très, très stressant aussi également, c'est formidable parce que je pense que c'est toujours à travers les petites histoires aussi qu'on arrive à appréhender les grandes œuvres comme ça, et c'est génial de redécouvrir en fait Spielberg hors du circuit promo, on va dire, parce que même ses bonus c'est quand même souvent de la promo chez Spielberg, c'est pas Peter Jackson pour le coup, et voilà, je vous conseille ça, c'est une édition qui va bientôt être dans les bacs à soldes, je pense ça sera pas très cher, et rien que pour ce petit bonus ça vaut vraiment le coup.
Peut-être pour Noël prochain, Alice, on verra bien, notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, merci à la recyclerie, au public pour l'accueil, rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. En attendant, on vous dit à très vite.
Rosebud, j'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.